Chapitre 45. Utopie. Akan continuait de fixer le ciel, à s'en brûler les yeux. Le soleil s'élevait presque à la verticale du donjon, au-dessus du drapeau à la verte croix, telle une boule de feu échappée de l'immense colonne de pierre. « Quelle heure est-il ? » demanda le géant. Wayne baissa la visière de son chapeau pour regarder l'astre sans s'aveugler.
« Presque midi, je dirais. »«
Ça, je sais, » s'énerva Akan. « C'est l'heure précise que je te demande. »«
Midi, moins le quart, » dit calmement Wayne. « Il nous reste 15 minutes. Ensuite, Coco, ou Flabelle, sera exécuté. »
Ils demeurèrent silencieux, observant devant eux les remparts noircis, les cordes calcinées, les échelles disloquées, les grappins tordus. L'odeur de soufre remplissait les narines dès que l'on s'approchait des douves. Liu avait expliqué que les bombes vertes étaient fabriquées avec un mélange complexe de chaux vives, d'huile, d'essence de pin, de salpêtre, connu depuis l'Antiquité sous le nom de feu grégeois, capable de brûler même sur l'eau. Les arbres et les herbes avaient été carbonisés sur une largeur de 10 mètres le long du mur de la forteresse. Depuis le début de la matinée, les forces libres avaient lancé 4 assauts successifs, et tous s'étaient soldés par des échecs cuisants. Akan avait d'abord emmené ses troupes dans une deuxième tentative, mais il n'avait même pas pu atteindre les remparts, fauchés par les bombes explosives. Ils avaient essayé une troisième fois, quelques minutes plus tard, couverts cette fois par les canons de Liu. Les savants n'avaient pas eu le choix, la vie des otages était en jeu. Mais ils avaient eu beau bombarder les murs, les dégâts provoqués par les boulets étaient insuffisants. Les remparts médiévaux avaient dû résister au cours des siècles à bien d'autres attaques, et les projectiles de fer s'encastraient dans la fortification de pierre, la lézardant à peine. Une heure plus tôt, les 3 armées s'étaient mobilisées pour la 4e offensive, considérée comme définitive. Jeanne d'Arc, Akan et Rick avaient décidé d'attaquer le chemin de ronde de tous les côtés à la fois, espérant créer un effet de surprise et désorganiser la défense du donjon. Près de 200 ados, filles et garçons, primitifs ou non, étaient montés à l'assaut du château. Plusieurs dizaines de grappins avaient été lancés de façon simultanée, 30 échelles appuyées contre les remparts, 50 boulets d'acier tirés. Et pourtant, pas un combattant des forces libres n'était parvenu à entrer. Les plus audacieux avaient cru atteindre les rebords des machicoulis, mais les prémas, munis de perches plus longues que les beaux, les avaient obligés à lâcher prise. La plupart des assaillants, ainsi repoussés, s'estimaient heureux de s'en sortir avec une cheville foulée ou une épaule luxée. Les prémas auraient pu leur envoyer une boule de feu à bout portant. Après une bataille de près de 20 minutes, Mook avait sonné la retraite. Les pertes étaient considérables du côté des forces libres, même si aucun ado n'avait été mortellement touché. Par contre, Vanil dénombrait 48 soldats hors d'état de combattre pour cause de brûlures, fêlures ou cassures, et au moins le double qui refusaient de risquer leur vie pour un nouvel assaut. Cela valait-il la peine, pensait-il, pour sauver la vie de 4 otages, d'envoyer des dizaines d'hommes et de femmes à l'abattoir ? Jeanne d'Arc avait eu raison depuis le début. Il fallait tenir un siège long. Après tout, si la sorcière, Bill, Crobleu, les ombrageurs et les prémas restaient dans leur donjon, c'était comme s'ils étaient en prison.
« Ils ont tiré 57 boules vertes !» assura Vanille en essuyant délicatement le front noirci de Jeanne d'Arc. « Ils auraient pu en tirer davantage et tuer à coup sûr ceux qui avaient grimpé le plus haut, mais ils ne l'ont pas fait. »
Une lueur d'espoir passa dans ses yeux.
« Cela signifie qu'ils veulent les économiser, et donc que leur stock n'est pas inépuisable !»
En concertation avec Ogénor, les stratèges des forces libres décidèrent de lancer une dernière attaque juste avant midi. Un baroud d'honneur plus qu'une réelle tentative de prendre le contrôle du donjon, destiné à la fois à faire dépenser au prémat d'autres feux grégeois et à montrer à Mordelia qu'il ne laisserait pas exécuter les otages sans tout mettre en œuvre pour les délivrer. Après réflexion, ils avaient choisi d'expérimenter une stratégie différente. Le gros des troupes encore valides attaquerait par l'ouest, à l'opposé du pont-levis, alors qu'Akan, à la tête d'un commando limité, profiterait de la diversion dans le but de franchir par surprise les remparts et d'atteindre la porte fortifiée. À 9:50 précise, tous les combattants valides des trois armées se lancèrent une cinquième fois à l'assaut des remparts, à grand renfort de corps et de cris, les boulets de canon sifflant au-dessus de leur tête. « Maintenant !» souffla Akan. Il avait lui-même choisi son équipe, Cheyenne, Wayne et Mook, et les quatre meilleurs soldats, Novak, Helios, Diana et Florentine. Il regrettait amèrement qu'Agnel, le plus doué des escaladeurs, ne soit pas parmi eux. Ils avancèrent le plus à couvert possible et commencèrent à grimper sur les remparts sans se servir d'aucune corde ou échelle, profitant simplement des anfractuosités entre les pierres pour y agripper leurs doigts et des impacts de boulets pour y poser leurs pieds. Alors que la bataille faisait rage sur la façade opposée, ils progressaient lentement, à l'allure de lézards fatigués, pour ne surtout pas se faire repérer. Akan s'accrochait à un maigre espoir. Leur ruse grossière pouvait fonctionner. L'attaque plein ouest avait dû impressionner les défenseurs de la forteresse, et leurs troupes devaient s'y concentrer. Après tout, les deux commandants de la protection du donjon s'appelaient Crobleu et Bill, deux ados particulièrement stupides qui se laisseraient facilement piéger. Ces dernières pensées restèrent bloquées dans son cerveau. Bill et Crobleu se tenaient au-dessus d'eux, à l'abri derrière les meurtrières du chemin de ronde, entourés de quelques dizaines de prémats. Tous portaient avec précaution leurs précieuses boules vertes, et contrairement à l'analyse de Vanille, ne semblait pas avoir l'intention de les économiser. Accroché à la paroi, Akan comprit qu'ils étaient perdus, lui et les sept garçons et filles qu'il avait entraînés dans ce commando désespéré.
Ce n'était pas un accident.
Alix et Zizo, les yeux toujours rivés sur la fiche de Marie-Lune et Pierre-Sol Zarkis, fixaient la signature. Le 6 décembre. 15 jours avant le passage du nuage. Marie-Lune et Pierre-Sol étaient au courant, forcément. Le soleil, indifférent, avait continué sa course, délaissant le gnomon et plongeant le laboratoire Utopie dans une semi-pénombre. Les deux adolescents se moquaient de ces variations de luminosité. Ils avaient l'impression que la Terre s'était ouverte sous leurs pieds. Ils peinaient à imaginer les conséquences de ce qu'ils venaient de découvrir. Le nuage qui avait détruit l'intégralité de l'humanité 16 ans auparavant n'était pas le fruit d'un hasard, d'une maladresse ou d'une imprudence. Il avait été programmé. Après un long moment de méditation silencieuse, Alix se mit à réfléchir à voix haute.
Ce n'est pas possible.
Marie-Lune, Pierre-Sol et les autres scientifiques du labo Utopie connaissaient la dangerosité de ce nuage. En le laissant s'échapper volontairement, ils se condamnaient eux aussi.
Pas forcément, raisonna Zizo. Ils pensaient peut-être posséder un antidote, ou être capables de se protéger avec des masques, des combinaisons.
Mais la toxicité du nuage a été plus forte que ce qu'ils croyaient. Tu te souviens de ce que nous a raconté Jacques sur la respiration cutanée? Ils ont libéré un monstre, et le monstre a fini par les dévorer. Alix ne pouvait s'empêcher de penser que Zizo avait raison, que, si Valère était là, il aurait pu leur fournir des dizaines d'exemples d'inventions qui avaient fini par se retourner contre leur créateur.
« Ça expliquerait tout, » poursuivit Zizo, « et notamment pourquoi ce sont justement Marie-Lune, Pierre-Sol et les autres scientifiques du château qui ont survécu le plus longtemps. Quelle incroyable coïncidence, sinon. Mais s'ils s'étaient préparés, protégés, alors ça change tout. Tous les autres adultes sont morts au bout de quelques mois. 1 an, maxi, mais eux ont tenu 3, 4, 5 ans.
Alix devait reconnaître la logique implacable du raisonnement du garçon. S'il disait vrai, cela signifiait que Marie-Lune, leur maman à tous, n'était pas seulement responsable d'avoir laissé mourir de froid des enfants de Paris. Elle était responsable de la fin de l'humanité. Alix visualisa dans sa tête les photos de sa famille devant Big Ben, la Sagrada Familia, le Colisée. Marie-Lune avait donc froidement assassiné ses parents et sa grande sœur.
puis avait achevé l'immense majorité des enfants survivants. Elle se leva brusquement.
« Il n'y a qu'une façon de savoir. Viens !»
Elle tourna le regard vers l'escalier qui menait au dernier étage de l'observatoire.
« On va aller voir ce qui se passe sous la coupole d'Arago. C'est sûrement là qu'ils ont installé le cœur du labo. C'est forcément d'ici, au-dessus des toits de Paris, qu'est partie toute leur saloperie. »
Zizo s'apprêtait à refermer le dossier devant eux, mais Alix retint sa main et arracha d'un geste nerveux la photo de Pierre Sol. Elle la glissa dans la poche de son jean.
« Je la montrerai à Luponera quand on la reverra. Elle est la seule enfant qui possède un souvenir visuel d'un de ses parents. »«
Bien vu, » fit Zizo. « D'ailleurs, c'est curieux, sa fiche n'est pas dans le dossier. Comme si quelqu'un... »«
L'avait volée, » poursuivit Alix. « Regarde bien, toutes les fiches de ce dossier sont impeccablement rangées. On dirait qu'elles sortent tout juste de la photocopieuse ou qu'une secrétaire les a classées avec soin. Mais cette dernière page, celle de Génor !»
Le garçon passa son doigt sur la feuille de papier.
Elle est froissée,
écornée, comme si quelqu'un avant nous l'avait consultée.
Et récemment, ajouta Alix, pas il y a 16 ans.